la commune des Petits Cristières, avec les concours aujourd'hui de Mathieu Gallet et François Moritier.
Bien, messieurs, il y a de métal ou bien nous parlons. Vous avez évidemment envie tous les deux de parler de ce livre, La mise à mort d'Aragon. Il y a de métal ou bien nous parlons au préalable d'autres livres. Et ensuite, d'Aragon, ou bien nous commençons par Aragon. Moi, je ne vais imposer aucune méthode, c'est vous qui décidez, ou la salle. Aragon d'abord. Bien, c'est évident, c'est un livre important que Aragon n'avait pas publié de roman depuis la semaine 5, et qui n'avait pas publié de roman de ce genre, si on peut dire. Et encore, là, je vais me faire assassiner, car c'est difficile de dire ça. Il n'avait pas publié depuis Aurélien, finalement. On peut dire que c'est un roman égotique, comme l'était Aurélien, et que Aragon est plus présent dans la mise à mort que dans la semaine 5.
On te fait un assassin.
Tu m'assassines dès le début, mais c'est pas bien. Alors, veux-tu essayer, glorifier, de dire comment se présente la mise à mort d'Aragon?
Je crois, puisque nous sommes entre nous, nous pourrions continuer, exagérer. Parmi les articles qui ont déjà paru consacrés à la mise à mort, il y en a un qui se termine par quelques mots qui me paraissent extrêmement justes. Nous pourrions commencer par eux, c'est précisément l'article de Mathieu Gallet, dans l'hebdomadaire dont il est le critique, et il termine en disant « Donne-t-on des notes à une montagne ?» Et c'est tout à fait cela. On se sent un petit peu saoul en face de ce livre, et c'est comme si à un certain moment, la légende des siècles venant de paraître, nous étions là, deux ou trois, en train de dire « Est-ce que c'est bien la légende des siècles ?» Il y a des faiblesses, ou comme si on était devant l'œuvre de Claudel et que du haut de notre expérience et de notre sagesse, nous laissions tomber des jugements sur Claudel. Enfin, on a un peu le même sentiment. Alors je crois que tout ce que nous allons dire, il faut l'affecter d'un certain coefficient, qui veut dire que c'est un très grand livre et que nous en parlons très modestement et avec le sentiment de ne pas du tout en parler comme il faut. Je crois qu'il faut commencer par là. Maintenant, pour essayer de dire ce qu'est le livre, je vais le faire très bêtement, en disant la succession un peu des événements. Au début du livre, nous sommes, en disant début du roman, nous sommes en 1936 dans un restaurant, et trois personnages bavardent. L'un s'appelle Antoine Célèbre et il est écrivain. L'autre s'appelle Ingeborg Duchère, c'est sa femme et elle est une cantatrice célèbre. Et le troisième s'appelle Michel et revient d'Espagne où la guerre civile a commencé de faire mal. Il est russe. Il se trouve que Antoine, l'écrivain, à l'habitude d'appeler Ingeborg, il se trouve également que Antoine Célèbre, de son vrai nom, s'appelle quelque chose comme Alfred, et il dit. De sorte que nous avons déjà un personnage qui s'appelle Antoine et qui est Alfred, et une femme qui est l'héroïne et son épouse et sa compagne, qui s'appelle Ingeborg, mais qu'on appelle Fougère.
Mais c'est pas que j'ai envie que vous en serviez tout à fait.
Non, mais je donne ça comme raison pour essayer d'entrer au cœur, au fond du livre. Puis, au fur et à mesure des pages, nous voyons Antoine à l'occasion de réflexion et de méditation autour de la jalousie et d'Othello, devenir Antoine avec un lâche, A-N-T-H-O-I-N-E, lâche étant lâche d'Othello. Puis apparaît un nouveau personnage qui s'appelle Christian, qui est un jeune homme dont on explique comment Antoine ou Alfred ou Aragon l'a rencontré, et qui est amoureux de Madame Duchère, de Fougère. Et puis un peu plus loin, il est dit qu'au fond, ce Christian, puisque le réalisme est si difficile dans un livre, ce Christian, ça peut être des tas d'autres personnages, et que sous le nom de Christian, le narrateur, Antoine, Alfred ou Aragon, désignera, dit-il, tous les amants de Fougère. Donc, le terme de la jalousie se précise et s'approfondit. Maintenant que nous savons que nous avons affaire à un récit dans lequel, sous des noms proches les uns des autres, ou bien différents les uns des autres, chaque personnage, à savoir l'homme et la femme, recouvre plusieurs possibilités du même personnage, nous pourrions entrer dans les thèmes évidents. Le premier thème, c'est celui d'un homme, qui est Antoine, qui se regarde dans un miroir et qui ne trouve plus son image. C'est un homme qui, dit-il, en écoutant chanter sa femme, la cantatrice Fougère, un jour a perdu l'image de lui-même. Puis, 200 pages plus loin, on trouvera le même narrateur, qui à ce moment-là ressemble singulièrement à Aragon, a perdu 3 semaines de sa vie. Un jour, dans sa baignoire, il est le matin en train de prendre son bain, sa femme entre, lui dit « Tu n'oublies pas que le tailleur vient tout à l'heure », et elle comprend à sa réponse qu'il ne sait plus quand il est, et qu'il y a 3 semaines de son temps qui sont tombées, il y a un trou de la mémoire. Il y a donc à la fois le thème de l'homme qui a perdu son image au miroir et le thème de l'homme qui a perdu un morceau du temps de sa vie. Il se trouve que dans les 11 chapitres ou parties qui composent ce roman, il y en a 2 qui sont des lettres d'Antoine ou d'Alfred ou d'Aragon à cette femme qui est appelée Fougère, qui parle de la jalousie, qui parle du miroir, qui parle du thème du miroir brisé. Et il y a surtout 3 nouvelles, qui sont 3 nouvelles écrites par l'écrivain Antoine Célèbre, et qui se lisent, que lit ou que ne lit pas Fougère, que lit ou que ne lit pas Christian. Et Antoine s'attribue, et Antoine s'attribue, ces 3 nouvelles, s'appelant l'une Murmure, l'autre Le Carnaval, la troisième Oedipe. Je vais très vite, Murmure, c'est à la fois une méditation d'Antoine sur son amour pour Fougère et une sorte de confusion dans son rêve avec une histoire d'amour dans l'histoire qui était la liaison qui se termine par la mort de l'amant du médecin Strenge avec la reine Caroline Mathilde de Danemark. Le Carnaval se passe en 1918, à l'entrée des troupes françaises dans l'Alsace libérée, redevenue française, il raconte l'amour d'un jeune homme qui s'appelle Pierre pour une jeune fille alsacienne qui s'appelle Bettina. Amour qui est un peu dans l'éclairage de la présence de Goethe dans les villages voisins, dans le souvenir d'une autre Bettina qui est Bettina Florentine. Et il se trouve que l'ami de Pierre, c'est un jeune médecin auxiliaire qui s'appelle Aragon. De sorte que cette histoire, qui est de toute évidence un morceau d'autobiographie d'Aragon, est racontée par un personnage qui est Aragon sous le regard d'Aragon. Et à l'occasion d'un concert de Richter à la salle Gaveau, où l'on joue le Carnaval de Schumann en 1963, et le narrateur pense faire vivre tout son amour pour la jeune Bettina qui au piano lui jouait le même Carnaval en 1918, et de l'œil devant lui, il y a un personnage célèbre, sa femme non moins célèbre, qui s'appelle Aragon et les a triolés. Quant à la troisième nouvelle, qui est celle pour ma part dans laquelle je pénètre, je veux dire, le plus difficilement, s'appelle Oedipe, et disons en gros que c'est une parodie de la série noire qui consiste à dire que les Atrides, ça se retrouve partout, et que le roman policier ou la tragédie grecque, au fond, c'est la même chose. Mais ce qui est important et qui nous amène à la fin, c'est qu'un personnage dans cette nouvelle, dans ce récit, Oedipe, se rêve assassin. Nouveau dédoublement, et nous arrivons au dernier chapitre qui s'appelle Le miroir brisé, qui est un petit peu la destruction, l'assassinat de tous les doubles. Et Alfred, qui est devenu jaloux de ce double lui-même qui est Antoine, ou Antoine d'Alfred, on ne sait plus très bien, décide de le tuer. Et le tuer consiste à lui donner un immense coup de poing. Mais ce coup de poing, au fond, c'est un coup de poing dans un miroir, il blesse sa main, et au fond, c'est sa propre image qu'il avait perdue et qu'il détruit à la fin du livre, qui était ce double personnage sur lequel les 400 pages ont été bâties et racontées. Et lorsque, dans cette espèce de crise de violence, le narrateur tombe à terre, un médecin arrive, on l'emmène, et sa compagne, qui est là, Fougère demande « Vivra-t-il ? » Et le médecin répond « Oui, pour ce qui est de vivre, il vivra. Mais il faudrait que vous compreniez, madame, que cet homme vous a aimé à la folie. » Et c'est le dernier mot du livre, qui est à la fois un mot sur la destruction des images, la destruction des doubles, l'entrée presque dans la mort, et en même temps, l'entrée dans cette dualité plus grave que toutes celles qui sont évoquées dans le livre, qui serait l'aliénation, qui serait la folie.
Et le rappel du codex.
Et je vous remercie beaucoup, Monsieur, pour cette entrée dans un livre qui n'est pas qui n'est pas difficile à lire exactement.
Naturel est donc celui-ci.
Bon, je dois en effet vous lire mon chien.
Quelle est la difficulté?
Il faut vraiment qu'on ait un dialogue sur le site qui est vraiment quelque chose d'extrême. Moi, j'ai, la nuit que j'ai passée à raconter ce livre dans ma chambre, c'est une des plus pénibles que j'ai passées cette année. Parce que vraiment, pour deux raisons. D'une part, parce que c'est très difficile à raconter, et d'autre part, parce que Aragon, c'est quand même quelqu'un de très important, quelqu'un qui fait un petit peu peur. Et on se dit toujours, est-ce que j'ai tout à fait compris ce qu'il voulait dire? Et bien souvent, dans ce livre, on a du moment d'hésitation, peut-être aussi à cause du style, justement. Je crois que ce n'est pas un livre si facile à lire que cela, car le style d'Aragon est très baroque, très chantourné, très compliqué, et quelquefois, par endroit, mais souvent, et en particulier dans les explications. C'est-à-dire, quand Aragon se lance dans une digression, c'est très clair, c'est très joli, on fait ça facilement, mais quand il explique quelque chose qui est déjà très compliqué, car cette histoire des dédoublements dans les miroirs, c'est tout de même très abstrait, car vous avez sauté un certain nombre de choses, c'est indispensable, sinon on ne peut pas arriver à s'en sortir. L'histoire des miroirs gros, les miroirs gros, ce sont des miroirs à trois faces, j'ignorais d'ailleurs que c'était, il y avait une maison spécialisée qui faisait ça, et ces miroirs gros, quand on se met dedans et qu'on referme les deux faces, on peut se voir à l'infini à l'intérieur. Alors ça multiplie les images d'Aragon qui est Antoine, qui est Antoine, ou qui est Alfred, ou qui est Christian, ou qui est un autre, à l'infini, ce qui fait qu'on a du mal à savoir exactement à qui on a affaire.
Parce qu'il faut bien comprendre, alors maintenant que nous avons essayé, que nous avons donné une image, une succession d'images extrêmement fragmentaires du livre, il faut bien comprendre que le livre, c'est avant tout un roman d'amour. C'est avant tout le roman d'amour du narrateur pour une femme appelée Fougère, quelle que soit l'apparence du narrateur, quelle que soit l'apparence de la femme appelée Fougère. Mais c'est aussi une immense méditation sur le réalisme, sur les rapports entre l'autobiographie et l'invention romanesque, sur la façon de revivre sa vie, de revivre ses souvenirs pour les faire entrer dans la création, dans ce qu'on appelle l'invention littéraire. C'est tout cela pris, comme on dit en chimie, à l'état naissant. Ce n'est pas du tout la façon de vivre d'aujourd'hui l'échafaudage au lieu du monument, mais c'est cette espèce de chimie extraordinairement complexe à l'intérieur d'un homme dont toute la vie, dont toutes les minutes de la vie ont été vouées à la littérature, cette chimie qui fait que quelque chose devient de la littérature, cesse d'en être, en redevient, et tout cela est pris, non pas à son aboutissement, mais à son origine. Ce qui rend extrêmement complexe, j'imagine, le travail de l'écrivain, et pas complexe le travail du lecteur, mais complexe l'explication du plaisir qu'on a pris à lire.
Oui, nous essayons de dire que les minutes de la vie d'Aragon ont été données à la littérature. Oui, mais il y a aussi, je dis, ça parlait d'un peu du mot réalisme, dans le fait que c'est réalisme socialiste, il y a aussi le fait qu'Aragon a donné beaucoup de temps au parti politique auquel il appartient, et que
C'est l'autre thème du miroir. Il y a le miroir en tant que en ce qui concerne l'homme à Aragon, c'est-à-dire la façon dont il se voit, dont il voit ses personnages, et puis il y a le miroir qui représente le réalisme, la fameuse histoire de Stendhal et du le roman est un miroir qu'on promène le long d'une route. Et là, il a repris ce thème du miroir justement pour montrer que si on promenait, tout dépendait de la façon dont on promenait le miroir le long d'une route, et précisément si on promenait un miroir à trois faces, il est certain que la réalité qu'on verrait ne ressemblerait pas du tout à celle qui est, et néanmoins ce serait tout de même du réalisme. Il faut dire qu'il ne faut pas prendre le mot réalisme dans le sens le plus simple, et qu'on peut être réaliste en étant par exemple surréaliste.
Mais il y a 20 fois dans ce livre des phrases qui sont des définitions, qui sont des points de repère. Et j'en ai repéré une très courte. Il est dit quelque part, les romans, ce sont des songes partagés. Et au bout, ou en tout cas à ce point de l'évolution esthétique intérieure où Aragon est parvenu pour l'instant, il semble qu'il ait intégré toute cette image de l'amour de l'homme et de la femme, cette image qu'il a trouvé dans la poésie andalouse, qu'il a trouvé dans la poésie arabe, qu'il a trouvé dans la poésie occitane, qui est à l'origine de tout le roman en France, il a intégré cela à une notion du réalisme qu'il a en quelque sorte dépassé. Déjà à la fin des Cloches de Bâle, je crois, il disait « Et c'est la femme d'aujourd'hui que je chante, et c'est la femme d'aujourd'hui que je chanterai ». Et il faut comprendre cette façon qu'il a de comprendre aujourd'hui le réalisme qui consiste à dire et c'est un homme qui chante une femme nouvelle et qui est son égale, qui chante une femme d'aujourd'hui et qui va rêver avec elle le monde, rêver pour elle le monde, et le réalisme, le roman, ça va être ce songe partagé.
Je crois qu'il ne trahit pas trop le...
Comment trahir ce livre qui est lui-même une espèce de trahison concertée, justement, de la réalité en province, n'est jamais une trahison. Il ne faudrait pas croire tout de même que c'est un livre entièrement abstrait. C'est-à-dire que c'est un petit peu une espèce de pudding, si vous voulez, dans lequel il y aurait des raisons de Corinthe qu'on savoure particulièrement, qui sont les nouvelles, etc. Il y a l'Enterrement de Gorki est en l'un d'eux. Et bien, l'Enterrement de Gorki qui s'est passé, il me semble, en 1936, il y a donc le récit de la demande de Gorki, cet Antoine qui est manifestement aragon, je crois qu'il n'y a pas de raison de faire assimilation, se trouve dans le cortège et sent la présence de provocateurs. Et c'est vrai que la période des grandes tours, etc. Et on sent que là, le romancier veut prouver que la réalité qu'il a vue à ce moment-là était une réalité à laquelle il a cru, et à laquelle maintenant il doit ne plus croire après la déstabilisation, etc. Et pour lui, la réalité politique n'existe pas plus que la réalité de l'amour ou la réalité de la jalousie, etc. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on peut être sincère parce qu'on le croit, et ensuite, quand on sait une autre vérité, on ne croit plus. Ça ne veut pas dire que l'on était un fourbe à l'époque où on croyait. Ça fait quand même une espèce de
différence. Ça veut dire qu'il a oublié, il a évité de tomber dans le péril qui pouvait le menacer s'il avait, par exemple, imaginé de prendre la suite d'un Sartre ou d'une Simone de Beauvoir. Il a évité, avec une suprême habileté, le péril de l'autobiographie nue, dans lequel Aragon aurait raconté, on n'aurait pas bien pu concevoir un livre dans lequel Aragon aurait raconté.
Ah oui, c'est la vie, c'est un couple dans le monde, et au plus chaud et au plus politique, dans ce sens-là, au plus brûlant du monde, disons, entre 1928 et 1964.
Oui, dans lequel on voit qu'il n'aime pas agir, dans lequel il y a toutes les étapes des petites réflexions qui sont...
La guerre de 40, la guerre de 40.
Mais au fond, depuis plusieurs livres, déjà depuis quelques années, et même au travers des poèmes, on pouvait déceler chez Aragon ce qui est la forme de sa fidélité à lui-même et sa fidélité politique conciliée, c'est-à-dire à la fois une foi restée intacte et une amertume immense. Quelque part dans ce livre, il est dit « Je ne savais pas que le roi était fou. Je ne voulais pas voir que le roi était fou. » Libre à nous de savoir que le roi avait une grande moustache, enfin c'est quand même tout à fait clair. Et sans cesse, il y a cette amertume, mais on comprend bien que les raisons qui ont fait qu'Aragon, en 1926 ou 1928, en 1928, je crois, a fait le choix politique qui consistait à devenir membre du Parti communiste, ce choix, ce mouvement, il ne les a à aucun moment reniés. Il se trouve simplement que la réalité historique a recouvert dans certains lieux et à certains moments cette foi politique, cet idéalisme, de façon un peu suspecte, peut-être abominable, enfin disons-le. Et tout cela fait partie de l'histoire de sa pensée, mais il n'y a pas de reniement à aucun moment.
Non, absolument pas. Ce qu'il y a d'extraordinaire, je trouve, c'est... Il y a deux choses, là, je ne dirais pas de critique, mais enfin quelque chose qui m'inquiète tout de même, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a d'abord une extraordinaire jeunesse. Alors ça, c'est incontestable, cet homme qui n'a pas 20 ans, ni même 40, c'est un livre d'une jeunesse folle avec en même temps une nostalgie. Il y a une très belle page où il regarde, je ne sais pas si c'est Antoine sans H ou avec H, c'est Alfred, je ne sais rien, il se passe de ski nautique où il voit des jeunes gens faire du ski nautique et il sait qu'il n'est pas de la jeunesse qui peut aller comme un mur perpendiculaire à l'eau comme cela, se lancer sur le solo. Et en même temps, il sent qu'il a une jeunesse en lui et cette jeunesse éclate dans la composition de ce livre, la liberté prodigieuse avec laquelle il nous dit à vous tous, écoutez, j'écris comme j'ai envie d'écrire, si c'est compliqué, vous me suivrez, sinon tant pis. Et en même temps, Ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'au fond, le thème principal, le thème central, le champ profond de ce livre, très romantique allemand, de couleur très romantique allemande, et c'est pas au hasard si le carnaval de Schumann est au centre du livre, et pas vraiment la méditation sur le Vater Rhein, c'est que ce champ profond, c'est la jalousie. C'est le roman d'un jaloux. Et que, non, ce n'est pas le roman d'un jaloux, c'est pas bien sûr, c'est très simple. C'est la jalousie considérée comme finalement ce qui blesse le plus dans l'amour.
Oui, mais le thème central, c'est l'amour, c'est l'amour d'un homme pour une femme.
Oui, mais le reflet principal de l'amour, si vous dire, ce serait donc la jalousie que jamais, à sa voix, moi, autant les pages d'Aurélien et Bérénice m'ont toujours ému au sens le plus bête, simplement, autant ces pages de jalousie ne me mouvent pas. Je dois dire que ce n'est pas une critique, c'est purement subjectif. C'est la seule part de lui qui ne me touche pas. Je n'arrive pas à y croire. C'est tout, c'est pas.
Je ne vois pas très bien à quoi vous faites allusion. Il n'y a pas des pages sur la jalousie. Elle est diffuse, hein, ce livre tout entier. On ne peut pas dire qu'il y ait des pages sur la jalousie. Oui, mais il se s'emploie de parler d'autre chose. Il racontait la guerre de 40 ou des anecdotes. Il n'y a pas toujours cette jalousie. Mais là, quand vous dites que c'est un livre jeune, ça je me demande, c'est un livre jeune à la mesure où une aspiration, une espèce de génie demeure toujours jeune, mais enfin, vous n'oubliez pas que ce livre s'appelle La vie d'amour, c'est tout de même plutôt une espèce de testament spirituel, de somme jeté par cet homme qui, en se disant, vous comprendrez ou vous ne comprendrez pas, ça m'est égal, moi j'aurais écrit cela, Non, mais c'est quand même, on a un peu l'impression que Aragon, après avoir écrit ça, dit maintenant, bien je peux mourir tranquille, ça me... J'ai fait ce que j'avais envie de faire et tout ce qui peut. D'ailleurs, je crois qu'on pourrait trouver des citations là où il dit enfin, maintenant, les années qui me restent à vivre, ça n'a pas d'importance.
Il y a deux mots qui ont été prononcés qui me gênent un tout petit peu. C'est le mot complication et le mot complexité. Et je ne crois pas du tout que La mise à mort soit un livre difficile à lire dans la mesure où. Il y a un miracle qui dure 424 pages, si j'ai bonne mémoire, qui est l'écriture d'Aragon. À ça, je crois qu'il faut en parler un peu. Je crois que personne, aujourd'hui, n'écrit les Français comme ça. Je ne sais pas en quelle année, je crois que c'est juste après la guerre, dans un article, Paul Claudel avait dit d'Aragon, n'est-ce pas, est souvent cité comme ça au dos des livres de poche, Aragon qui écrit le français comme sa langue naturelle. Et je crois en effet que c'est une aventure tout à fait extraordinaire. On a affaire à une phrase complètement désossée, complètement fluide, complètement sinueuse, qui en même temps est capable de la plus grande sensibilité, capable d'aller jusqu'au bout du baroque. On ne sait pas comment ça fonctionne. Ça peut durer presque une page entière. Et on est porté du commencement à la fin, quel que soit le thème. Et je ne vois pas aujourd'hui aucun écrivain vivant qui puisse nous donner ça.
Michel, tout à l'heure, j'ai vu une jeune fille qui avait la mise à mort sur ses genoux, je l'ai repérée bien soigneusement. Elle est très jeune, peut-être qu'elle ne va pas vouloir dire au micro ce qu'elle pense de ce que nous venons de dire, elle n'est peut-être pas du tout d'accord d'ailleurs.
Et c'est parce qu'elle n'a pas fini de le lire parce que ce n'est pas possible.
Oui.
Alors,
et celui
Ah, moi, je trouve que c'est, point de vue pro, c'est le plus beau qu'il ait jamais fait. Moi, je place au rang de tous les romans, enfin, de toute la prose qui a été écrite parmi tout ce que j'ai pu lire parmi les contemporains. Enfin, moi, je trouve que c'est formidable.
Et puis, dans l'ordre de la langue, même si vous n'avez pas été déconcerté par ce livre-là,
ah, non.
Par rapport aux autres.
Non, non. Enfin, c'est-à-dire que j'ai lu à peu près tout d'Aragon, tout ce qu'on peut trouver. Et, enfin, c'est pas. Point de vue style, je trouve que ça ne change pas extraordinairement de ce qu'il a pu écrire.
Merci, madame.
Bon, est-ce qu'il y a une autre question? Il y a une autre question sur la mise à mort d'Aragon? Non, bah, bah écoutez, alors je vous rappelle qu'il s'agissait de la mise à mort de Louis Aragon.
Oui, à propos de Aragon, d'ailleurs, il y a une autre
lettre
qui est arrivée.
Non, mais
Aragon,
on ne parlait pas d'Aragon, là.
Oui, non, mais tu parles, oui, parce que tu as dit livre, oui, c'est juste. Tu as fait un geste que l'auditeur n'a pas compris.
Oui, puisqu'il s'agit, en fait, commencer par ça,
commence par ça.
On va commencer par remettre à la si gentille spectatrice, auditrice du Masque et la Plume littérature qui a été diffusée la semaine dernière, et on va lui remettre le livre que Louis Aragon a dédicacé à son intention. Je peux regarder ce qu'il nous a mis. Ça ne vous invite pas, mademoiselle. Ah oui, parce qu'il n'a pas pu se procurer le livre de lui que vous avez cité et qu'il semble bien avoir écrit lui-même.
Oui, oui, il a confirmé et il a dit qu'au fond, il trouve que c'est plutôt mieux qu'il y ait des œuvres de lui d'épuiser. Ça l'ennuie en rédite.
Oui, c'était la grande gaieté. Il ne l'a pas trouvé dans sa bibliothèque. Mais il vous envoie celui-ci, c'est pour Michel Laurent. Avec mes regrets, dit-il de ne pas vous avoir.
Non, vous avez déjà la mise à mort puisque vous avez sur les genoux, mais ça part un deuxième exemplaire. Si vous faites votre thèse, vous en avez dans la bibliothèque.